Ces enregistrements ont été réalisés lors du séminaire Évangile 21 intitulé « La parole et les actes, la vie du disciple à la lumière de la croix » qui s'est tenu à l'Institut biblique de Genève au mois de mai 2016. Les droits appartiennent à Évangile 21.
Alors comment fait-on ? Bonjour à tous d'abord. Je suis heureux de vous voir ici et honoré d'être là. Comment fait-on lorsqu'on est intimidé par le sujet qui nous a été confié et qu'on ne se sent pas forcément à la hauteur? Alors, avant tout, prier. Donc je l'ai fait, puis on l'a fait encore là, donc je m'en réjouis. Autre possibilité, se protéger au début en disant qu'on n'est pas spécialiste du sujet. Donc c'est ce que je fais maintenant. Je suis pasteur et prédicateur, mais pas théologien systématique. Et puis, troisième technique, inviter M. Henri Blocher à assister à l'exposé pour le temps de questions. Si jamais il y avait une question pour laquelle je ne me sentais pas tout à fait à l'aise. Et M. Blocher a eu la grande gentillesse de bien vouloir être des nôtres. Alors, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc je vais révéler mon âge du coup, j'avais à peu près 18 ans. J'étais étudiant au Wheaton College, une faculté évangélique aux États-Unis. Je n'étais pas étudiant en théologie à l'époque, mais dans un cursus de relations internationales. Et j'avais un colocataire très sympa avec qui je suis toujours ami. Et il nous arrivait de temps en temps de discuter de choses et d'autres, et notamment de temps en temps de théologie, sachant que ni lui ni moi n'étions étudiants en théologie. Et un jour, je ne sais plus pourquoi, nous avons abordé le sujet qui pourtant pouvait paraître bien complexe pour nous, mais justement du rapport entre la loi et l'évangile. Et donc le sujet de ce petit débat entre nous, ce jour-là, c'était est-ce qu'en tant que chrétien, nous sommes sous la loi ? C'est, je pense, l'expression que nous avions utilisée. Alors moi, j'avais tendance à répondre non, en disant, ben quand même, dans la lettre aux Romains, je ne connaissais pas très bien les références, mais il y a des textes qui semblent dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et donc, il me semblait que la réponse était assez claire. Et puis, ce colocataire, cet ami, a protesté en disant, mais quand même, Dieu nous demande encore de lui obéir. Et donc, il nous adresse des commandements, et pas seulement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau également. Est-ce que ça ne veut pas dire, si Dieu nous adresse des commandements, que nous sommes encore sous sa loi? Alors presque 20 ans plus tard, donc ayant entre-temps bénéficié d'une formation théologique et de plusieurs années de ministère pastoral, j'ai quelques éléments supplémentaires pour aborder cette question, mais elle me paraît à vrai dire encore bien complexe. Le chrétien est-il sous la loi de Dieu? Et dans un sens, qui oserait dire non? Qui oserait dire, ah ben non, nous ne sommes plus sous la loi de Dieu? Et pourtant, l'apôtre Paul notamment, mais d'autres auteurs du Nouveau Testament, ne nous disent-ils pas précisément que nous sommes libérés de la loi? Et Jésus lui-même n'a-t-il pas de diverses manières remis en question la manière en tout cas d'observer la loi, ou l'observance de la loi de Moïse? Alors comment comprendre tout cela? Et c'est là que je me protège. Il est évident que nous n'allons pas faire le tour de la question aujourd'hui. Très, très, très loin de là. Et ce que je vous propose simplement, c'est d'y réfléchir ensemble pour avoir ne serait-ce qu'une réintroduction à ce sujet. J'imagine que nous y avons tous réfléchi d'une manière ou d'une autre. Et peut-être, par la grâce de Dieu, un avis un peu mieux informé. Et voilà le plan que je vous propose pour cela. D'abord, quelle est la question? C'est toujours bien de commencer par là. Ensuite, une synthèse des données bibliques. Deux grandes approches, là c'est un choix que j'ai fait, parce que j'aurais pu dire 19 approches, ou quelque chose comme ça, on pourrait en trouver, hein, si on voulait en trouver 19, mais je me suis dit, deux grandes familles de pensées classiques dans le protestantisme, et dont on trouve l'héritage dans le protestantisme évangélique, la position luthérienne et la position calviniste réformée sur la question de la loi et de l'évangile. L'histoire du salut, clé de lecture pour une prise de position, et c'est là que je m'aventurerai avec beaucoup de prudence, à dire ce qui, pour ma part, me semble la meilleure approche de ce sujet, et j'imagine que tous ne seront pas d'accord avec moi, et c'est très bien comme ça. et puis un temps de discussion ensuite. Donc d'abord, quelle est la question ? Il me semble que lorsqu'on aborde la question du rapport entre la loi et l'Évangile, la question principale est celle qui en fait est l'objet de l'essentiel des débats, et la suivante : dans quelle mesure le chrétien, croyant de la Nouvelle Alliance, est-il tenu d'obéir à la loi que Dieu révèle à Israël dans l'Ancien Testament ? Dans quelle mesure le chrétien croyant de la Nouvelle Alliance doit-il obéir à la loi, ou est-il tenu d'obéir à la loi que Dieu révèle à Israël dans l'Ancien Testament ? Autrement dit, dans quelle mesure le chrétien est-il tenu d'obéir à la loi de Moïse ? Et c'est cette question qui nous occupera pour l'essentiel de cet exposé. Mais il faut noter, constater que cette question donne parfois lieu à une question plus large, nous emmène vers une question plus large, qui est celle-ci : dans quelle mesure le chrétien, sauvé par la grâce au moyen de la foi, est-il soumis à des impératifs divins ? Puis après, il faudrait dire qu'est-ce que ça veut dire y être soumis, etc. Donc autrement dit, au-delà de la loi de Moïse, dans quelle mesure sommes-nous soumis à une loi de Dieu ? Et il me semble que si cette question est si complexe, c'est souvent parce qu'il y a un glissement de la première vers la deuxième question, sans qu'on définisse toujours très bien les termes de la discussion. Et il y a bien sûr des questions exégétiques derrière, questions d'interprétation des textes. Lorsque Jésus ou Paul, par exemple, parle de la loi, est-ce qu'il se réfère toujours à la loi de Moïse ? Ou bien est-ce qu'il se réfère parfois à l'expression de la volonté divine d'un point de vue général ? Est-ce que ça dépend des textes ? En tout cas, il faut dire ceci d'emblée. Dire que le chrétien n'est plus soumis à une loi, notamment la loi de Moïse, n'entraîne pas nécessairement qu'il ne soit plus soumis à aucune loi. Donc ça serait... d'enchaînement logique là, entre dire si le chrétien n'est pas tenu d'obéir à la loi de Moïse, il n'est tenu d'obéir à aucune loi. Donc encore une fois, nous aborderons particulièrement la question du rapport entre la loi de Moïse, la loi qui est révélée dans l'Ancien Testament à Israël, dans le cadre de l'alliance entre Dieu et Israël, et son rôle dans la vie du croyant de la Nouvelle Alliance, dans la vie du chrétien. Donc il nous faut aborder maintenant, dans un deuxième temps, les données bibliques. Et je dis bien synthèse des données bibliques. Peut-être que synthèse n'est pas le meilleur mot d'ailleurs, mais plutôt quelques données bibliques. Puisque nous n'avons bien sûr pas le temps ni le loisir d'examiner attentivement toutes les données bibliques sur cette question. Et donc j'espère en relever suffisamment pour mettre en évidence la problématique du moins et pour poser les bases d'un essai de réponse. Et donc on va d'abord évoquer l'Ancien Testament avant de se tourner vers les évangiles, et puis ensuite vers les lettres de Paul. Et on fera un tout petit tour par la lettre aux Hébreux. D'abord donc, la loi dans l'Ancien Testament. Alors, un petit mot d'abord sur le sens du mot qui a donné loi, Torah, dans l'Ancien Testament. Beaucoup de théologiens contestent le fait même que nous traduisions le mot hébreu Torah par loi. Ou en tout cas, peut-être plutôt que de le contester, disent attention, on peut traduire comme ça, mais il faut bien comprendre ce qu'on entend par Torah. Alors à notre décharge, si nous traduisons Torah par loi, c'est parce que la Bible des Septante, la traduction grecque de la Bible, le fait. La Bible qu'utilisait Jésus et ses disciples couramment, donc la traduction grecque de la Bible, utilisait le mot grec nomos, donc qui veut dire communément « loi » pour traduire « Torah ». Donc ça n'a pas été inventé par nous, qu'il fallait procéder à cette traduction. Mais pas mal de théologiens estiment que le fait de comprendre la Torah comme une loi avant tout est trompeur. Par exemple, un spécialiste évangélique de l'Ancien Testament, comme Daniel Bloch, estime que la traduction des Septante s'est trompée sur ce point. Que ce n'était pas un bon choix. Et ces spécialistes estiment que par Torah, il faut avant tout comprendre instruction, enseignement. D'autres maintiennent quand même que la Torah est avant tout une loi, un ensemble de commandements. Par exemple, Thomas Schreiner, professeur de Nouveau Testament aux États-Unis, souligne que c'est bien ainsi que Paul semble l'avoir compris, d'après lui, et sans nier la dimension d'instruction qui est bien présente, ou l'élargissement du mot dans certains contextes, il faut tout de même comprendre la loi avant tout comme un ensemble de commandements de Dieu. Alors, personnellement et très modestement, je pencherai un peu pour cette deuxième lecture, mais en tout cas, ce qui est incontestable, c'est que les commandements sont une dimension essentielle de la relation entre Dieu et Israël dans l'Ancien Testament, et c'est dans ce sens que j'emploierai le mot loi dans ce qui suit. Hein. Avant tout, les commandements de Dieu, révélés à Israël par Moïse. La loi est, en fait, dans tout l'Ancien Testament, un élément extrêmement important de la relation entre Dieu et l'homme. Au sens large, on peut dire que la loi apparaît dès le premier chapitre de la Genèse, quand Dieu ordonne aux hommes et aux femmes de se multiplier, de dominer sur la création. Ou au deuxième chapitre, lorsqu'est énoncée la permission de manger de tous les arbres, du fruit de tous les arbres, sauf de celui prohibé de la connaissance du bien et du mal. Après le déluge, Dieu communique une loi à Noé, en Genèse 9, qui récapitule à plusieurs égards, en partie ce qu'on trouve en Genèse 1 et 2, se multiplier, dominer la terre, etc., tout en ajoutant de nouveaux éléments. Il y a donc une dimension légale dans l'Ancien Testament avant même Moïse. Mais il faut reconnaître qu'il y a tout de même une spécificité à la loi de Moïse qui est donnée à Israël dans le cadre de cette alliance que Dieu conclut avec un peuple entier, avec le peuple d'Israël. Israël est appelé à être un peuple saint, mis à part pour Dieu, et cette mise à part, cette consécration, s'articule autour d'une loi par laquelle Israël est appelé à vivre au quotidien sa vocation de peuple de Dieu, vocation unique. Et lorsque dans le reste de la Bible, que ce soit chez les prophètes, ou dans les écrits, ou dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de la loi, dans la grande majorité des textes tout de même, c'est bien la loi de Moïse qui est évoquée. Et on constate que tout au long de l'Ancien Testament, la loi de Moïse est la norme à partir de laquelle la fidélité du peuple est évaluée. Le rôle essentiel des prophètes, en fait, c'est de rappeler la loi à Israël. Le premier rôle des prophètes n'était pas de prédire l'avenir, comme on le pense parfois spontanément. Cette dimension existait également, mais avant tout, il s'agissait de rappeler au peuple la loi et de dénoncer le peuple lorsqu'il s'écartait de la loi. Et lorsque les prophètes dénoncent l'infidélité d'Israël, ils le font, en tout cas dans la grande majorité des cas, en rapport avec la loi. Pourquoi est-ce que Israël est dénoncé régulièrement par les prophètes? Eh bien parce qu'il ne respecte pas le culte institué par Moïse, il adore d'autres dieux en particulier, il n'aime pas son prochain, il transgresse le sabbat, il consomme des aliments impurs. Donc c'est en obéissant à la loi qu'Israël est invité à montrer sa fidélité à Dieu. Maintenant, il est important de souligner que la loi est vue dans l'Ancien Testament de manière positive, comme une source de vie, de joie et de sagesse. On peut penser, parmi tant d'autres exemples, à un texte très connu, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas encore en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Donc la loi le nourrit et la loi lui enseigne, cet homme béni, cet homme heureux, elle lui enseigne à ne pas mal vivre et à vivre d'une manière qui reflète Dieu. Nous verrons, je pense, que ce regard positif sur la loi n'est pas contradictoire avec ce qu'affirmera bien plus tard l'apôtre Paul, et nous y reviendrons, mais déjà dans l'Ancien Testament, il y a des indications qu'à cause du péché des hommes, l'alliance conclue dans le désert du Sinaï condamne plutôt qu'elle ne sauve, et qu'un jour une nouvelle alliance sera conclue qui ne sera pas fondée sur la loi de Moïse, mais sur le pardon éternel décrété par Dieu Et on a là un texte clé dans le prophète Jérémie, Jérémie 31, versets 31 et 32. Je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Et notons bien, elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Autrement dit, la loi de Moïse ne sera pas comme la loi de Moïse. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître. Donc cette alliance, Jérémie, et Dieu par l'intermédiaire de Jérémie, nous dit qu'elle sera quelque part mise en échec, pas parce que la loi est en faute, mais parce que le peuple la transgresse. Donc on a déjà cet élément ici, dans l'Ancien Testament. Et Jérémie poursuit, mais voici, c'est Dieu hein, qui parle par Jérémie, « Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, donc il y a quand même question de loi, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je vous avais promis que c'était très bref, on va passer au Nouveau Testament. Jésus et la loi, quelques références dans les évangiles. Jésus lui-même évoque la question de sa venue en rapport avec la loi dans une très célèbre section du Sermon sur la montagne. Donc, très précisément, Matthieu 5, 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes dans la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 17 à 20. Dans le contexte, on ne peut pas contester, il me semble, que Jésus évoque la loi de Moïse. Il fait référence aux scribes et aux pharisiens juste à, enfin, dans ce verset que nous venons de lire. Il parle de la loi et des prophètes. Donc, il me semble que c'est indiscutable que c'est bien la loi de Moïse dont il parle. Or, du coup, que conclure de ces paroles de Jésus ? Est-ce qu'il nous appelle à obéir à toute la loi de Moïse, même dans ses aspects les plus rituels et les plus circonstanciés à l'Israël de l'Ancienne Alliance? La question se pose en lisant en tout cas ce seul texte. D'autres textes soulignent le respect que Jésus avait pour la loi de Moïse. Alors, si on croit que Jésus est Dieu, ça ne devrait pas nous surprendre, hein, qu'il respecte sa propre loi. Mais ainsi, il invite le lépreux guéri, l'un des lépreux guéris, à accomplir le rituel prévu par la loi de Moïse pour la guérison d'une telle maladie. Hein, Marc 1, 44. Au jeune homme riche qui lui demande comment avoir la vie éternelle, qu'est-ce que Jésus commence par lui rappeler ? La loi de Moïse, et il affirme, fais ceci et tu vivras. Luc 10, 28. Les textes parallèles. Mais on constate par ailleurs que Jésus, pourtant, remet régulièrement en question, en tout cas, la manière d'observer la loi. Un peu plus loin dans ce même discours, dans le sermon sur la montagne, il s'exprime en termes très forts contre la répudiation, qui était pourtant explicitement permise par la loi de Moïse. Verset 31-32, une référence donc à Deutéronome 24, verset 1. Au chapitre 17, on a un texte où Jésus dit à Pierre que les fils du royaume sont exemptés de la taxe du temple. Fils du royaume, a priori, ses disciples, auraient le droit de ne pas payer la taxe du temple. Or, la taxe du temple, elle figure noir sur blanc dans la loi de Moïse. Exode 30, versets 13 à 16. Marc affirme de son côté que Jésus déclarait tous les aliments purs. Marc 7, 19, petit commentaire qu'il insère après avoir cité Jésus. Or ça, dire que tous les aliments sont purs, ça dit exactement le contraire des lois alimentaires du Pentateuque qui précisément disaient « il y a des aliments qui ne sont pas purs ». Et on pourrait citer bien d'autres textes. Et d'ailleurs, si Jésus a attiré autant de haine contre lui de la part des représentants de l'institution religieuse juive de son époque. C'est précisément, entre autres raisons, parce qu'il prenait de telles libertés vis-à-vis de l'observance de la loi de Moïse. Donc on ressent une certaine tension, tension ne veut pas dire contradiction, mais une certaine tension dans l'enseignement de Jésus. D'un côté, on voit que la loi a une valeur permanente, il nous le dit sans ambiguïté, pas un seul trait de lettre, etc. Mais son observance concrète est réinterprétée, parfois radicalement réinterprétée, et Jésus semble considérer, en tout cas dans certains cas, que ses disciples ne sont plus soumis à l'obligation d'obéir à certains aspects de la loi. On va essayer donc peu à peu de résoudre cette tension. Mais d'abord, on va parler de l'apôtre Paul. Plus qu'aucun autre auteur du Nouveau Testament, l'apôtre Paul a développé cette question de la loi et du rapport entre le chrétien et la loi, le rapport entre évangile et loi. Or, dans une certaine mesure, on retrouve chez Paul la même tension apparente que chez Jésus. Par exemple, Paul peut s'exclamer, Romains 3, 31, cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi ? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Ça rappelle quand même beaucoup ce que Jésus lui-même disait. 1 Timothée 1,8, nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et on pourrait citer d'autres textes qui vont dans ce sens. Mais dans bien d'autres, et dans certains textes clés, particulièrement connus de Paul, l'apôtre exprime avec force une rupture dans le rapport du disciple de Jésus-Christ à la loi, en tout cas la loi de Moïse. Et ces textes sont la clé de voûte de la doctrine paulinienne de la justification. Alors nous n'en citerons que trois. Galates 3, versets 23 à 25. « Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. » Romains 7, 6, « Mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. » Le régime périmé de la loi écrite, quand même, d'une façon très forte de le dire. Romains 7, 14, « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Ainsi, si l'apôtre Paul rappelle à plusieurs reprises le caractère juste et bon de la loi que Dieu a révélée, il déclare aussi avec force que le chrétien n'est plus soumis à cette loi. En tout cas, c'est bien ce que semblent indiquer ces textes que nous venons de citer. Et si on était tenté de dire que Paul ne parle que de certains aspects de la loi, c'est une interprétation qui existe, on en reparlera, mais il faut reconnaître que Paul s'exprime de manière a priori absolue lorsqu'il parle, par exemple, du régime périmé de la loi écrite. Il ne dit pas certaines sections de la loi, il dit la loi écrite. Ou lorsqu'il dit nous ne sommes plus sous la loi. Nous avons un exemple particulièrement frappant dans l'Épître aux Galates, où Paul semble aller jusqu'à établir un parallèle entre certains aspects de la loi de Moïse à propos desquels il utilise la même expression qu'il emploie pour parler du passé païen des Galates, lorsqu'il parle des principes élémentaires qui asservissent l'homme. Dans le contexte, Paul semble faire un lien entre la situation, de dire en fait aux chrétiens galates non juifs, en tout cas pour la plupart qui voulaient se faire circoncire, mais en fait si vous imposez la circoncision, en quelque sorte c'est comme si vous reveniez à vos idoles. Imaginez à quel point ça pouvait être choquant. On comprend que les lettres de Paul, dès son époque et encore aujourd'hui, aient été si polémiques. Or, en évoquant ces choses, Paul n'est pas dans une spéculation théologique abstraite. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. En effet, et c'est ce qui est décisif chez l'apôtre Paul, le pécheur est toujours trouvé coupable lorsqu'il est jugé à l'aune de la loi. Il est, en dernier lieu, toujours trouvé coupable. Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Pire encore, le péché est dans un sens excité par la loi, si on peut dire. Le péché, Romains 7, 11, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Et à ceux qui l'accusent du coup de mépriser la loi de Dieu, Paul proteste au verset suivant que le problème fondamental, ce n'est pas la loi elle-même. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon, Romains 7, 12 et 13. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas, au contraire, c'est la faute du péché. Donc Paul peut dire oui et amen au psalmiste qui chante les merveilles de la loi de Dieu. Mais tout en maintenant cela, il affirme que le péché de l'homme rend impossible toute justification par la loi. L'homme se retrouve dans une situation de condamnation chronique face à cette loi qui en elle-même est juste et bonne. Et là, ça rejoint le propos de Jérémie, chapitre 31, qu'on a lu un peu plus tôt, qui dit que Dieu va inaugurer une nouvelle alliance parce que les Israélites ont rompu l'alliance du Sinaï. Notons enfin que si Paul se concentre principalement sur la loi de Moïse, il affirme que le principe d'une loi par laquelle l'homme chercherait à se justifier est plus large et peut même s'appliquer à la loi de la conscience. Par exemple, les non-juifs qui n'avaient jamais eu la loi de Moïse faisaient quand même face à la même problématique parce que la loi de leur conscience les défend et les accuse tour à tour et joue en quelque sorte le même rôle que la loi de Moïse. Un très bref passage par l'Épître aux Hébreux qui a un apport très important pour cette question parce que de manière particulièrement explicite, cette lettre affirme que certains aspects, en tout cas de la loi, sont dépassés depuis la venue de Jésus. Et non seulement cela, mais que ne pas comprendre cela, en fait, ça serait passer à côté de l'Évangile. Et même à renier Christ, piétiner le Fils de Dieu, pour prendre une expression de cette lettre. L'Épître montre en particulier que tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ, dans le sacrifice parfait et unique de Christ, de sorte que vouloir en rester au sacrifice accompli dans le temple, par exemple, revient à nier l'efficacité parfaite, définitive, du sacrifice de Christ. Or, il y a un verset particulièrement frappant où l'auteur semble en conclure que si un aspect de la loi n'est plus d'actualité, donc tous les sacrifices par exemple, eh bien, c'est toute la loi qui doit changer. Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi, Hébreux 7, 12. Et il affirme un peu plus loin que c'est toute l'alliance sinaïtique qui est révolue. Donc là, il ne dit pas les aspects rituels de la loi simplement, il dit en parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Hébreux 8, verset 13. Alors, que conclure de cet examen des textes du Nouveau Testament? Est-ce que la loi de Moïse, elle est abrogée? Mais alors, comment comprendre ce qu'a dit Jésus? Pas un seul trait de lettre, etc. Est-ce qu'elle est simplement révolue? Est-ce qu'elle est maintenue, à part quelques aspects? Et face à la complexité de ces données, les docteurs de l'Église se sont positionnés diversement au fil de l'histoire. La Réforme a particulièrement replacé cette problématique au cœur de la réflexion biblique et théologique. Et deux positions théologiques ont vu le jour à cette époque. Et ce sont encore, je pense qu'on peut le dire, les deux positionnements évangéliques fondamentaux, même si après ils regroupent de très nombreuses variantes. Ça, il ne faut pas le cacher. Mais deux positionnements quand même qui sont restés les deux grands positionnements évangéliques, l'approche luthérienne et l'approche réformée. Avant d'aborder de manière donc très schématique et rapide le débat théologique qui a lieu, il peut être utile de souligner les points d'accord essentiels entre ces deux positions, mais plus largement entre tout chrétien évangélique, tout ce qui devrait être en tout cas un consensus pour nous tous. D'abord, tous les chrétiens évangéliques s'accordent pour dire que la loi ne peut pas sauver le pécheur de la juste condamnation de Dieu. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Seule la grâce de Dieu saisie par la foi en Christ peut permettre de sauver le pécheur. Tous les chrétiens évangéliques s'accordent pour dire, par ailleurs que les aspects rituels, cérémoniaux de la loi de Moïse ont trouvé un accomplissement définitif dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et que le chrétien, donc, n'est plus tenu de suivre ses commandements. Pas besoin d'accomplir des sacrifices, pas de circoncision, pas d'interdit alimentaire. Ici ou là, il peut arriver quelques petites ambiguïtés sur cette question, mais globalement, un large consensus est d'accord là-dessus. À ces aspects rituels, la quasi-totalité des évangéliques ajoute que la loi civile d'Israël, donc les lois sur le patrimoine, sur le droit pénal, hein, par exemple, la loi sur la lapidation des adultères, etc., la quasi-totalité des évangéliques estime que cela n'a plus lieu d'être non plus dans la Nouvelle Alliance. Il y a une toute petite minorité, les théonomistes, quasi absents, me semble-t-il, en francophonie, qui contesteraient ce point. Alors pourquoi ce consensus? Eh bien parce qu'il me semble que tout de même les textes bibliques enseignent de manière assez indiscutable la fin de ces aspects de la loi par la venue de Jésus. Mais les évangéliques s'accordent aussi pour dire, ou en tout cas devraient s'accorder pour dire, que le chrétien est encore soumis à des commandements divins. Pour citer un exemple qui fait l'unanimité, il y a le commandement de faire des disciples, baptiser et enseigner. Matthieu 28, versets 16 à 20. Je ne connais pas de chrétiens qui disent « Ah, mais ça, c'est optionnel. Ça, c'est si on veut. Juste un conseil de Jésus. » Ou encore « Nous aimer les uns les autres. » Jean 15, 12 et d'autres. C'est un commandement. Nous sommes tenus d'y obéir. Jésus ne nous dit pas « Je vous suggère de vous aimer les uns les autres. » Une tentation, et je le dis parce que une tentation, je crois, toute particulière de notre société post-moderne, comme on dit, est de rejeter toute notion de commandement. Et l'idée, c'est qu'il faut, toujours choisir. Si quelque chose nous est imposé, eh ben, c'est forcément pas bon. Et on dira, par exemple, oui, je veux bien honorer mes parents, mais ça doit venir de moi. Ça doit être purement spontané. Je veux pas qu'on me l'impose. Je veux bien aimer mon prochain, mais je veux le faire par choix. Pas parce qu'on me l'ordonne. Et alors, aimer les uns les autres, par définition, comment est-ce qu'on peut ordonner l'amour? L'amour, ça ne se commande pas, ça ne s'ordonne pas, etc. Alors, j'imagine que dans cette auguste assemblée, personne ne tiendrait de tels propos, mais ce sont des choses qu'on entend assez souvent, y compris, je pense, dans nos églises, avec l'influence tellement forte de notre civilisation sur ces points-là. Il faut toujours choisir. Or, dire cela, c'est oublier que Dieu est notre Seigneur. Et si on utilise le mot « Seigneur », il faut être conscient des implications de ce mot. Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire de notre vie. Pas juste le chef, mais celui qui a tout droit sur notre vie. Or, si nous croyons qu'il est notre bon Père céleste, ça ne doit pas nous gêner. Quoi de plus magnifique que d'avoir pour Seigneur un Père céleste qui nous aime? Dieu est Dieu, il est notre Créateur, et nous sommes ses créatures. Et si nous sommes appelés à l'aimer, sans aucun doute, nous sommes aussi appelés à lui obéir. Et Jésus associe précisément ces deux choses. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14. Il n'y a aucune contradiction entre l'amour et le commandement. Donc attention à ne pas confondre toute idée de l'accomplissement en Christ de la loi de Moïse avec l'idée que, quelque part, ça deviendrait optionnel d'obéir à Dieu et que tout se fait par pur désir. Tous les évangéliques affirment ou devrait affirmer que nous devons encore l'obéissance à Dieu qui est notre Seigneur, à moins de tomber dans un faux enseignement qui est l'antinomisme, le fait d'être contre toute forme de loi. Maintenant que nous avons souligné les points d'accord essentiels, je regarde juste l'heure sur ma montre parce que je ne comprends rien à la pendule là-bas. Ok, ça va. Maintenant que nous avons souligné donc les points d'accord essentiels, venons-en aux différences. Je vais faire le choix ici, donc, de souligner deux approches principales, je l'ai dit, deux familles de pensées. Mais encore une fois, je le répète, il y a au sein de ces deux familles de pensées de nombreux courants qui sont parfois très différents sur tel ou tel point. Et vous avez par exemple un livre ici que je recommande pour ceux qui lisent l'anglais, cinq approches sur la loi et l'évangile. Donc, comme quoi, il y en a plus que deux. Mais il me semble que ce sont quand même des diverses variantes de ces deux grandes approches. La position luthérienne classique. Le père de la Réforme, Martin Luther, voyait tout au long de la Bible une tension on pourrait presque dire une dialectique, même si ça serait sans doute anachronique, mais une tension entre loi et évangile, entre l'impératif divin, fait, et l'œuvre de la grâce divine qui nous dit c'est fait. Donc l'impératif et l'indicatif. Luther lui-même emploie ces expressions. Et selon Luther, la loi permet au pécheur de prendre conscience de son état de pécheur et du coup de trouver refuge dans la grâce de Dieu. Pour Luther, le Saint-Esprit permet aux chrétiens d'apprendre à faire et à aimer le bien, et la loi peut jouer un rôle dans la sanctification du chrétien, mais un rôle négatif au sens strict du terme. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le chrétien parvient de mieux en mieux à obéir à la loi de Moïse qu'il grandit en sainteté, mais parce qu'en se mesurant à cette loi, il prend toujours plus conscience de son besoin de la grâce. Et c'est cette prise de conscience qui lui permet de grandir. Pour Luther, je le cite, « Toute la raison d'être et la valeur de la loi sont dans le fait qu'elle fournit la connaissance et la connaissance de rien d'autre que du péché, mais non dans le fait de montrer ou de conférer une puissance. » Donc la loi en elle-même ne nous donne pas la moindre puissance pour grandir dans la grâce. Alors la position luthérienne ensuite, disons l'héritage luthérien, a quelque peu nuancé la position du père fondateur de Luther. Ça je le savais pas, mais je m'en suis rendu compte en travaillant cet exposé. C'est-à-dire que Luther lui-même est très, très net là-dessus, mais ensuite, la formule de Concorde, rédigée une trentaine d'années après, avec notamment l'influence de Mélenchon, un des grands disciples de Luther, envisage un usage plus positif de la loi. Et aujourd'hui encore, des débats existent entre luthériens sur quelle était vraiment la position de Luther, la position authentique de Luther. Et est-ce qu'il y a ou non un usage positif de la loi. Mais généralement, on considère que la position luthérienne classique, c'est que pour le chrétien, la loi a pour rôle de révéler son besoin constant de la grâce de Dieu. Un rôle négatif, donc, plutôt que positif. La position réformée, ou calviniste, ou calvinienne. Calvin et ses héritiers divergent sur ce point de Luther et insistent plus nettement sur l'usage de la loi comme instrument de sanctification pour le chrétien, non uniquement parce qu'elle lui permet de prendre conscience de son insuffisance et de son besoin de grâce, mais plus positivement parce qu'elle l'instruit dans les voies de Dieu. Et c'est ce que Calvin appelait le troisième usage de la loi. Alors Calvin lui-même, donc, insistait plutôt sur la continuité, je dirais que s'il faut retenir une chose, c'est la grande différence, plutôt que rupture, continuité entre la loi et l'évangile, là où Luther voyait plutôt une dichotomie. Et écoutons ce que nous dit Calvin, qui était sans doute pas loin d'ici lorsqu'il a écrit ces lignes. « En fait, l'évangile n'a pas pris la suite de la loi comme un ensemble qui nous propose une manière entièrement différente de nous sauver. Il a plutôt confirmé et ratifié ce qui y était promis en ajoutant la réalité aux ombres. Pour Calvin, effectivement, et là sur ce point il est d'accord avec Luther, si l'homme cherche sa justification par la loi, il ne peut qu'être conduit au désespoir. Sur ce point, Calvin est tout à fait d'accord avec Luther. Mais pour le croyant régénéré, qui a reçu le salut gratuit qui lui est offert en Christ et en qui l'Esprit est à l'œuvre, pour lui, la loi, dans ses aspects moraux, dit-il, et notamment le décalogue, les 10 commandements, reste pleinement en vigueur et est un instrument de sanctification, instruit le chrétien pour mieux connaître Dieu. Et donc la tradition réformée rejette l'idée d'une dichotomie entre loi et évangile. La loi sans Christ ne pourra jamais sauver, ça c'est clair, mais avec Christ, la loi prend tout son sens, et dans ses aspects moraux, elle est un instrument de sanctification pour le chrétien. À la suite de Calvin, les réformés défendent généralement une vision tripartite de la loi. Il y a d'abord la loi cérémonielle, donc ce sont les lois de pureté, les sacrifices, les lois qu'on pourrait dire cultuelles. Ensuite, la loi civile, donc toutes les lois citoyennes d'Israël, ainsi ton prochain, si le bœuf de ton prochain meurt, et que, bon, bref, toutes ces lois, je ne vais pas trop m'aventurer dans les exemples précis, sinon je vais m'embrouiller, mais toutes les lois civiles, patrimoniales, etc., d'Israël, c'est un deuxième aspect. Et enfin, la loi morale, donc les commandements, qui reflètent la volonté de Dieu, qui s'impose à tous et à toute époque. Donc, pas des choses qui ne sont pas circonstanciées à Israël dans l'Ancienne Alliance, mais qui reflètent la volonté de Dieu éternelle. Dieu n'a pas changé d'avis sur le fait qu'il faut honorer son père et sa mère. Dieu n'a pas changé d'avis sur le fait qu'il ne faut pas commettre de meurtre. Donc c'est ce... Pardon ? En particulier le décalogue qui est emblématique effectivement de cette loi morale. Donc à quelques exceptions près, les théologiens réformés affirment que la venue de Christ a inauguré une nouvelle ère dans laquelle les aspects cérémoniels et civils de la loi ne sont plus d'actualité pour le chrétien, tandis que la loi morale, elle, reste pleinement et éternellement en vigueur. Alors aujourd'hui encore, la théologie évangélique tend à fluctuer entre ces deux pôles. D'un côté, ceux qui voient plutôt une continuité donc, entre loi et évangile, avec une insistance sur le rôle positif de la loi de Moïse dans la vie chrétienne. De l'autre, ceux qui voient plutôt une rupture entre loi et évangile, avec une insistance sur le caractère dépassé de la loi de Moïse et son plein accomplissement en Christ. Dernier point. L'histoire du salut, clé de lecture pour une prise de position. Ce serait une folie que de prétendre trancher en quelques lignes ce débat, dire ça y est, on a réglé la question, ça se saurait si c'était si simple. Mais je ne ferai que conclure par quelques réflexions qui m'ont été utiles à titre personnel pour avancer dans ma propre réflexion et pour aller vers un positionnement un peu plus net. Donc quelques réflexions personnelles tout d'abord. Petit a, tout d'abord, il serait bibliquement contestable d'opposer radicalement la loi et la grâce de Dieu. La loi manifeste elle aussi la grâce de Dieu. Quand Dieu révèle sa loi à Israël, il le fait dans le contexte d'une alliance de grâce, d'une alliance qui repose sur la grâce de Dieu. C'est Dieu qui veut appeler ce peuple à être son peuple et qui l'a sauvé d'Égypte. Et la loi est donnée à Israël après qu'il ait été délivré. Donc il y a... La loi manifeste elle aussi la grâce de Dieu et s'inscrit dans le contexte de la rédemption divine. Tandis que la grâce, elle, parallèlement, instruit l'homme à faire le bien. Et notamment, la lettre de Paul à Tite nous dit cela, chapitre 2, verset 12. La loi... La grâce de Dieu qui s'est manifestée nous enseigne à vivre de manière pondérée, etc. Titre 2:12, je paraphrase mal. Ensuite, autre réflexion, tous ne seront pas d'accord sûrement, mais la division en trois parties de la loi, cérémonielle, civile et morale, est bibliquement contestable. Plusieurs spécialistes, bien sûr, le relèvent. Cette division n'est jamais clairement explicitée dans les Écritures. On n'en a pas trace, semble-t-il, dans la pensée juive du temps de Jésus. Et à vrai dire, ces catégories semblent assez bancales et artificielles. Par exemple, certains aspects de la loi dite civile ont une dimension fortement morale. Les lois qui concernent la manière de se comporter avec les esclaves, avec les immigrés, avec les pauvres. Une loi comme le sabbat avait à la fois des implications pratiques et civiles, mais également culturelles. Et en même temps, elle fait partie du décalogue et elle a clairement une dimension morale. Les lois sacrificielles, pour beaucoup d'entre elles, étaient en lien avec le besoin de pardon de l'homme et donc avaient une dimension morale très claire. Donc est-il vraiment légitime de distinguer comme ça une loi morale, et notamment le décalogue, au sein de la loi de Moïse, à laquelle le croyant de la Nouvelle Alliance serait encore soumis? Et au nom de quoi ferait-on cette distinction? Donc il me semble que c'est contestable. Et le petit c, accomplissement et histoire du salut, c'est en fait ma conclusion, en quelque sorte, ma réflexion pour terminer. Pour ma part, il me semble que la clé pour comprendre le rapport entre loi et évangile est de bien comprendre de revenir finalement à ce texte de Matthieu 5 et de bien comprendre ce qu'entend Jésus lorsqu'il affirme qu'il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi. Un élément intéressant dans ce texte, et que j'ai rarement entendu, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais que j'ai rarement entendu relever, c'est que Jésus dit être venu non seulement accomplir la loi, mais aussi les prophètes. Verset 5, 17. Or, dans quel sens Jésus dit-il qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir les prophètes ?
Une toute petite pause.
Donc dans ce texte, Jésus parle de la loi et des prophètes, et pas seulement de la loi, même si ensuite, effectivement, il s'attarde un peu plus sur la loi. Mais il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Or, dans quel sens Jésus dit-il qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir les prophètes ? Ben, certainement pas, au sens où ce que disent les prophètes s'adresse directement à nous. Quand le prophète Jérémie met en garde ses contemporains contre une alliance avec l'Égypte, il ne s'adresse pas directement à nous. Il ne s'adresse pas directement aux chrétiens d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'il écrit n'est pas parole de Dieu. Ça fait autorité pour nous en tant que parole de Dieu et nous apprenons des choses essentielles sur Dieu dans les textes de Jérémie. Mais ces textes ne s'adressent pas directement à nous. Jésus n'est pas venu abolir ce qu'a dit Jérémie, ou Ésaïe, ou les autres prophètes. Rien de ce qu'ils ont dit ou écrit n'est annulé. Mais le message de ces prophètes trouve son accomplissement dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est venu apporter la sécurité, la paix, la puissance que recherchaient par exemple ceux qui voulaient conclure cette alliance avec l'Égypte. Jésus est venu restaurer parfaitement et définitivement la relation avec Dieu qui était entachée par la négligence spirituelle des hommes, par exemple, que décrit Malachie. Rien de ce que les prophètes ont dit n'a été aboli. Mais leur message ne s'adresse plus directement à nous parce qu'il a trouvé son accomplissement en Christ. Nous avons encore beaucoup à apprendre de ces prophètes. Ce qu'ils disent est parole de Dieu pour nous, mais nous les lisons à la lumière de l'Évangile. Et il me semble que nous pouvons là faire un parallèle avec la loi. Dans le cas de la loi, il me semble que Jésus dit exactement la même chose. En disant qu'il n'est pas venu abolir la loi, il nous dit que rien dans la loi n'a été annulé. Dieu ne rejette pas sa loi, mais il l'a accomplie pleinement en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, personnellement, je penche plutôt du côté de Luther que de celui de Calvin, parce qu'il me semble plus juste, pour bien refléter la révélation progressive, l'histoire du salut et le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance, de dire que la loi de Moïse ne nous est pas directement adressée. Pour connaître la volonté de Dieu pour nous, pour vivre une vie juste à ses yeux, nous devons nous tourner sans cesse vers Jésus et lire la loi de Moïse à la lumière de son plein accomplissement en Jésus. Et donc, si on comprend les choses ainsi, on dira que la loi de Moïse est utile pour le chrétien en tant que témoin et anticipation de Christ, mais que pour notre sanctification, ce n'est pas vers la loi que nous devons nous tourner, mais vers Christ, sa personne, son œuvre, ses commandements et sa grâce qui nous est communiquée par son esprit. Une façon simple de le dire serait de dire que si nous suivons Jésus et si nous obéissons à Jésus, il ne nous manque rien pour obéir à Dieu. Et c'est pourquoi l'approche qui me semble, à titre personnel, le mieux rendre compte de toutes les données bibliques, c'est celle que, entre autres, Douglas Moo présente et défend comme l'approche luthérienne modifiée. C'est comme ça qu'il l'appelle. C'est également la position d'un Tom Schreiner et bien d'autres, sauf erreur de Don Carson également. Cette approche insiste sur le changement de régime apporté par Jésus-Christ, qui, en sa personne et par son œuvre, a pleinement accompli la loi, au sens où il en a révélé toute la portée et il en a satisfait toutes les exigences. Comment est-ce qu'elle se distingue de l'approche luthérienne traditionnelle, un peu ? Eh bien, au sens où elle met moins l'accent sur une dichotomie qui parcourt toute la Bible entre loi et évangile, et préfère plutôt parler en termes d'histoire du salut et souligner plutôt le contraste entre ancienne et nouvelle alliance, ancien et nouveau régime. La loi avait pour but Jésus-Christ, Romains 10, 4. En l'accomplissant pleinement par sa venue et son œuvre, il en a confirmé la pleine vérité et la permanence en tant que parole de Dieu, d'où Matthieu 5, 17. Mais il a également mis fin à son régime. Le chrétien n'est plus soumis à la loi de Moïse en tant que tel. Pas même, c'est ce que je pense, et d'autres bien plus qualifiés, si on adopte cette approche, même dans ses commandements moraux, le chrétien n'est plus soumis à la loi de Moïse directement. Mais parce que Dieu ne change pas, ses exigences morales ne changent pas non plus. Et Jésus-Christ a pleinement récapitulé et même, à certains égards, amplifié la loi morale qui nous est révélée dans l'Ancien Testament. Alors, pour donner un exemple pratique, le chrétien s'interdit de commettre l'adultère. Il me semble que nous sommes tous d'accord. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le décalogue s'impose à nous et que nous sommes directement soumis au septième commandement des tables de la loi et qu'au dernier jour, Dieu nous dira septième commandement ? Alors, Dieu fait ce qu'il veut, peut-être qu'il le dira comme ça. Mais est-ce que c'est parce que nous sommes soumis au décalogue que nous refusons de commettre l'adultère ? Ou bien est-ce que c'est plutôt parce que Jésus lui-même confirme et amplifie l'interdiction d'adultère en disant que même un regard chargé de désir, en tout cas comporte en lui-même déjà l'acte et l'intention de l'adultère. Donc la loi de Moïse est encore parole de Dieu pour le chrétien. Elle révèle la personne et le dévoilement du plan de Dieu. Elle nous aide donc à comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Elle est un témoin prophétique de Jésus-Christ pour nous, c'est l'expression qu'utilise Douglas Moo. En méditant la loi de Moïse, nous comprenons mieux qui est ce Dieu que nous sommes appelés à aimer, mais nous ne sommes plus soumis au régime légal de la loi de Moïse, qui relève de l'ancienne alliance, qui est désormais pleinement accomplie dans le Christ. Mais ceci ne remet absolument pas en cause le fait que Dieu est Dieu, qu'il est notre Seigneur, et que nous sommes soumis à son autorité. Si nous avons été libérés du joug que faisait porter sur les pécheurs le code écrit de la loi de Moïse, ce n'est pas pour vivre sans autorité, mais bien au contraire pour vivre sous l'autorité exigeante mais pleine d'amour du Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Ce Dieu qui nous dirige par son esprit. Et Paul affirme que nous sommes soumis à la loi de Christ, Galates 6, 2. Et dans sa lettre aux Romains, il développe, me semble-t-il, ce qu'il entend par là. Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et ici, on a une belle illustration du principe selon lequel la loi n'est pas abolie, mais accomplie. Parce que Paul ne dit pas que les commandements contre l'adultère, le meurtre ou le vol ont été abolis, mais il nous dit que si nous obéissons aux commandements de Jésus, de nous aimer les uns les autres, dans toute sa force, eh bien nous vivrons d'une manière qui plaît à Dieu, et d'une manière qui rejette donc ses mauvais comportements. Il me semble donc que la puissance qui nous conduit à la sanctification, nous la puiserons par l'Esprit, et en ayant les yeux fixés sur Jésus, plutôt qu'en cherchant à obéir à la loi de Moïse, même dans ses aspects moraux. Et si nous nous soumettons au commandement de Jésus, si nous nous soumettons à sa seigneurie sur notre vie, et méditons toute la Bible à sa lumière, nous vivrons. Par la grâce de Dieu, nous aspirerons, et Dieu nous aidera à vivre la vie d'obéissance, dont la loi de Moïse est un témoin important, mais qui a cédé la place à son plein accomplissement en Jésus-Christ. Je m'arrête là pour ce qui est de l'exposé. Je suis désolé, ça a duré un peu. Et je m'en remets à mon cher collègue pour les questions.